Donc l'objet du cours de cette fois-ci, l'idée c'est de reprendre un petit peu notre cheminement dans l'histoire de la théologie morale et de franchir une étape de plus. Alors une étape qui est très importante et que je vais essayer de faire un pont d'ailleurs entre deux étapes que j'ai suggéré l'autre jour en répondant à telle question, qui est à la fois l'époque des pères de l'Église et l'époque médiévale. Quand je dis l'époque médiévale, c'est vraiment à la va-vite, hein, c'est surtout saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce que ce sont deux moments très important pour la théologie morale, pour la théologie de toute manière, mais pour la théologie morale spécifiquement. Je vais essayer de dire pourquoi. Alors, les pères de l'Église d'abord, petit rappel tout simple, pédagogique, hein, on parle de patristique pour l'époque des pères de l'Église, la patristique ou la patrologie, c'est strictement la même chose. Peut-être que les patrologues trouveraient l'une ou l'autre différence, mais enfin pour nous en tout cas c'est la même chose. Donc l'époque des pères de l'Église, on considère en gros qu'elle, pour se situer dans le temps, on considère en gros qu'elle commence après la constitution du canon des Écritures, c'est-à-dire la mort du dernier apôtre, jusqu'à... Alors, le point de départ, il est facile à trouver. Le point de conclusion de la patrologie d'époque des pères, si tu veux, c'est un peu plus compliqué. En gros, d'abord parce qu'il y a deux grandes branches. Il y a les pères latins, comme saint Augustin, saint Jérôme, etc. Et puis, il y a les pères grecs. Alors, la chronologie ne coïncide pas tout à fait, mais par exemple, pour ce qui est des pères latins, on dit que c'est saint Isidore de Séville qui serait le dernier père latin. Dans une version extrêmement tardive, mais qui est peu reçue, mais je l'ai déjà entendu dire, certains amoureux de saint Bernard de Clairvaux disent on pourrait après tout considérer que saint Bernard aussi fait partie des pères. Mais alors là, tu vois, ça repousse beaucoup la fin de l'époque des pères. C'est pas avéré, ça. Enfin, c'est pas communément reçu. Donc plutôt saint Isidore de Séville. Alors on est en 6e, 7e, 8e siècle, pas plus loin. Mais ça fait quand même une énorme période. Une énorme période. Hein. Cette énorme période, il faut aussi la voir, hein, c'est un deuxième rappel pédagogique, comme l'époque de l'Église indivise. Quand on dit l'Église indivise, c'est-à-dire indivise, c'est l'Église qui ne connaît pas les divisions. C'est-à-dire avant le schisme orthodoxe et a fortiori avant Luther. Hein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de division. Je dis ça parce que on peut puiser chez les pères de l'Église comme un trésor commun. Ça c'est très précieux d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que nous apprend l'époque des pères sur le plan de la théologie morale? C'est très important parce qu'il ne faut pas croire que c'est une époque révolue. On peut toujours se comporter aujourd'hui, même au XXIe siècle, comme si on était un père de l'Église. Je vais m'expliquer. C'est pas du tout révolu cette époque-là. Hein. On peut tout à fait, par exemple, lire l'Écriture comme lisaient les pères de l'Église. C'était une des questions qui m'a été posée la dernière fois. Je citais saint Grégoire le Grand, hein, à savoir l'Écriture avance avec ceux qui la lisent. Ça, c'est une méthode fondée par les pères. Alors, quelles sont les caractéristiques que on peut retenir, les principales caractéristiques de la morale des pères de l'Église? Y a-t-il une morale chez les pères de l'Église et quelle est-elle? Alors, premièrement, c'est une question qui n'a pas de sens. Mais ça vaut quand même la peine de se la poser, parce que spontanément, on se dit, quelle est la morale des pères de l'Église? Qu'est-ce qu'on peut tirer des pères de l'Église de morale? Je viens de dire, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des grandes lignes, etc.? Bon. Alors, premièrement, la caractéristique de la théologie à l'époque des pères, c'est que la théologie est une. Elle est unique, c'est-à-dire il n'y a pas de sens vraiment de parler de la théologie morale des pères de l'Église. Alors, tout à l'heure, je vais donner des exemples. Hein. Il y en a, on peut en trouver. Il y en a même plein, 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 plein. Mais un père de l'Église, si je me remets dans cette époque-là, et si je pense à saint Augustin, à saint Jérôme, bon, grand-père latin, je prends ces deux-là parce que c'est les plus connus en général. Hein. Ça n'a pas de sens de parler de morale des pères de l'Église parce que l'acte théologique à l'époque des pères est un acte unifié. Unifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, quand je fais cours au CIF et dans tous les séminaires et dans toutes les facultés de théologie, tu te présentes à un cours, n'est-ce pas, et tu dois faire un UV en théologie sacramentelle, en théologie trinitaire, en théologie morale, en Bible, et puis chaque branche de la théologie est elle-même subdivisée, et puis on arrive à des ramifications très fines, on fait de la bioéthique, et puis on fait de la bioéthique de début de vie, et puis après on fera de la bioéthique de fin de vie, enfin tout ça est extrêmement, c'est un arbre extrêmement découpé, avec des branches et des sous-branches. À l'époque des pères, ça n'a aucun sens. On fait de la théologie, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une théologie morale à part. Il y a l'acte de théologie, il est unique. Et donc, si on veut savoir comment les pères de l'Église parlaient de théologie morale, eh bien, il faut lire les pères de l'Église et on trouve dans leurs traités, dans leurs récits, de la théologie morale. Pour mieux éclairer ce que je viens de dire, je vais donner un exemple qui est un exemple majeur qui est utile à mon avis pour le cours de théologie qu'on peut appliquer. Enfin, une fois qu'on a entendu parler de ça, on peut s'en servir dans tous les domaines de la théologie, tous les domaines de la théologie. Hein. Et je vais donner cet exemple parce qu'il est très éclairant pour nous aussi. C'est ce qu'on appelle la méthode des quatre sens de l'écriture. Les quatre sens de l'écriture, c'est la méthode de lecture de la Bible préconisée par Origène. Au départ, et que tous les pères ont appliqué, et qu'on peut appliquer d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut être un père de l'Église et puis en lisant l'Écriture, il n'y a aucun problème. C'est la même méthode, elle n'est pas tombée en désuétude, on peut le faire toujours. Alors, Origène a organisé une méthode valable abondamment à l'époque des pères, qui est celle donc des quatre sens de l'écriture. C'est-à-dire, et là on va comprendre de quoi je voulais parler. Quand vous prenez n'importe quel texte de l'écriture, n'importe quel texte, un livre entier, un chapitre entier, une parabole, un récit de guérison, ne serait-ce qu'une phrase, un bout de phrase, un verset de psaume, un demi-verset de psaume, un mot. Quatre sens de l'écriture sont toujours possibles quand on lit ce verset, ce chapitre, ce livre entier. Il y a toujours quatre sens de l'écriture dans le moindre verset de l'écriture, n'importe où dans l'écriture. Ça qui est passionnant. Alors, quatre sens, en général, d'ailleurs, quand j'en parle, j'en oublie toujours un, mais je les retrouve. Le premier sens, c'est le sens historique. C'est-à-dire, bon, je vais prendre un exemple très simple. Dans l'Ancien Testament, il y a des récits, il y a de très très nombreux récits de guerre. On n'arrête pas de se faire la guerre dans l'Ancien Testament. Bon. Et donc, quand un père de l'Église lit l'Écriture, il se demande, premièrement, il se demande quel est le sens historique, c'est-à-dire le récit date de quand? Ça a été écrit dans quel contexte? On parle de quelle guerre, hein? On parle de quelle époque? Donc, tout de suite, on vient regarder l'Écriture dans son enracinement historique. C'est le contraire du fondamentalisme d'aujourd'hui, si tu veux, hein? Bon, d'abord, on assure la base historique. On est à quelle époque? Il se passe quoi? Quels sont les belligérants? De quelle victoire s'agit-il? De quelle raclée s'agit-il? Enfin, etc. Hein? Donc voilà, le sens historique. Pour n'importe quel texte, même des textes qui apparemment n'ont pas de sens historique. Alors, il y a un deuxième sens. Le deuxième sens est le sens spirituel. Le sens spirituel, hein? C'est-à-dire qu'on peut trouver dans n'importe quel verset, de n'importe quel livre, etc., un sens spirituel. C'est-à-dire que même dans un récit de guerre, si je reprends l'exemple d'un récit de guerre, il y a un enseignement spirituel, une leçon spirituelle à tirer. C'est-à-dire, le sens spirituel, c'est comment le verset en question de l'Écriture va nourrir ma vie spirituelle. Donc, il y a un premier sens, il est historique. Il y a un deuxième sens, il est spirituel. Il y a un troisième sens qui est important pour nous, enfin, qui est important pour les pères de l'Église, parce qu'ils le retrouvaient dans n'importe quel verset de l'Écriture, c'est le sens eschatologique. Hein? Le sens eschatologique, ça veut dire en quoi ce verset de l'Écriture m'informe sur le paradis, sur la vie future, sur la béatitude. C'est-à-dire que tout verset de l'Écriture doit avoir un sens pour aujourd'hui, quand je le lis, et doit m'informer sur la béatitude, sur comment atteindre la béatitude en Dieu. Et il y a un quatrième sens, et c'est là où ça nous intéresse, qui est le sens moral. Hein? Alors je donne le quarté dans le désordre, hein? Peu importe, hein? Mais le sens moral, c'est, eh bien, quel enseignement de vie concret. Le sens moral, c'est ce verset de l'Écriture a une dimension morale, c'est-à-dire me renseigne sur le comportement moral que je dois avoir dans ma vie. Autrement dit, je répète les quatre sens de l'Écriture, le sens historique, le sens spirituel, le sens eschatologique et le sens moral. Peut-être on peut même, d'ailleurs, c'est peut-être plus logique, le sens moral et le sens eschatologique, n'est-ce pas? Parce que le sens moral, c'est pour ma vie concrète aujourd'hui, et le sens eschatologique, c'est pour la vie future. Ça veut dire que c'est une illustration, ce que je viens de dire là, la méthode des quatre sens de l'Écriture, qui est ultra connue, ultra enseignée, ultra pratiquée, hein. Ça veut dire que la théologie morale, tu vois, c'est un sens parmi d'autres, et qu'on ne peut pas détacher le sens moral des autres. Donc, c'est là où je disais, il n'y a pas de théologie morale pour les pères. S'il y a une morale, elle est forcément connectée de manière vivante avec les trois autres sens. C'est-à-dire quand on réfléchit en termes moraux pour les pères de l'Église, ça veut dire qu'il faut prendre en compte en même temps l'histoire, la vie spirituelle et la vie en Dieu, dans le royaume. La morale, ça n'est qu'un aspect. Donc, c'est très important parce que c'est une autre mentalité. Vraiment, il faut se plonger dans l'idée que c'est une toute autre mentalité et que les pères de l'Église n'auraient jamais enseigné aussi. Parce que pour les pères de l'Église, une morale n'est qu'un moment de la théologie, indissociable des autres moments. C'est ça qui est le point le plus important. Hein. Aujourd'hui, on fait de la morale, on réfléchit sur une question particulière. On se dit par exemple, est-ce qu'il est moral de prescrire de la chloroquine puisque c'est le grand feuilleton national ou pas? Hein, bon, ça n'a aucun sens pour les pères de l'Église, d'abord, qui ne connaissaient pas la chloroquine, bon, mais qui connaissaient la plante probablement. Bon, mais On ne fait de la morale chez les pères que si on s'intéresse à l'histoire, à la vie spirituelle et à la vie en Dieu après. Alors, une fois qu'on a dit ça, hein, une fois qu'on a... Ben, c'est une manière de relativiser, hein, la théologie morale. Je pense que c'est très important de se dire que la théologie morale pour les pères, elle est relative, très relative. Bon. Alors, une fois que j'ai posé ces bases-là, et en même temps que j'ai levé ces équivoques, bon. Si vous, après le déconfinement, quand nous pourrons regagner librairie et bibliothèque, ou bien si on en a un petit peu dans sa bibliothèque privée, hein, qu'est-ce qu'on peut trouver chez les pères en termes de morale? Alors, il y a d'abord les grands traités. Les grands traités, j'ai cité l'autre jour la Cité de Dieu d'Augustin, ou bon, les très grands traités. Dans lesquels, qui ne parlent pas spécialement de morale, mais dans lesquels on peut trouver des pages ou des chapitres entiers de théologie morale. C'est la première source, c'est ça. La deuxième source, il y a des traités spécifiques de théologie morale, c'est-à-dire certains pères de l'Église ont écrit des traités, et d'ailleurs plein de traités spécifiques, pour traiter d'une question particulière de morale. Ça arrive quand même, par exemple, sur la sexualité, sur le mariage, sur l'abstinence, sur la continence, sur la virginité pour le royaume. Ce sont des thèmes moraux très abordés par les pères et qui ont, comment dirais-je, diligenté chez eux une écriture spécifique sur la question précise. Donc, quand on cherche où est la morale chez les pères, on la trouve dans les grands traités. Mais alors là, il faut un peu fouiller, parce que ce n'est pas forcément des traités dédiés à la théologie morale, mais on la trouve aussi selon des traités spécifiques réservés à une question de théologie morale. Les pères de l'Église sont d'abord des commentateurs de la Bible. C'est-à-dire que ça, c'est quand on veut trouver des questions morales chez les pères de l'Église, on les trouve parce qu'ils sont d'abord des commentateurs de la Bible. Et deuxièmement, on trouve la mort. Il faut savoir que les pères de l'Église étaient des animateurs de communautés, des pasteurs de leur communauté. Donc, des prédicateurs. La théologie des pères de l'Église est, pas toujours, mais souvent, une théologie prêchée, enseignée, notamment dans le cadre de la pastorale des sacrements. Le baptême, le mariage, l'Eucharistie, les sacrements. Autrement dit, si on veut trouver des sources morales chez les pères de l'Église, on les trouve dans les commentaires de la Bible, soit les commentaires savants, soit les commentaires prêchés, hein, le dimanche, les sermons. Les sermons, c'est un genre extrêmement banal chez les pères de l'Église. Et dans ces sermons, on trouve des sermons spécifiquement moraux, dédiés à une question. D'accord? Donc, j'essaie de synthétiser ça, hein. La théologie morale des pères de l'Église, elle est une. Une. C'est-à-dire, il n'y a pas une théologie morale. On trouve des réflexions morales, même parfois des réflexions morales tout à fait dédiées, spécifiques, mais dans le cadre d'une théologie une, qui pratique les quatre sens de l'écriture, la lecture des quatre sens de l'écriture. Et c'est interconnecté. Il n'y a aucun sens si j'ose dire, ça n'a aucun sens chez les pères de séparer la morale de la question de l'histoire, de la question de la vie spirituelle, de la question de la vie en Dieu. Très important. Ensuite, les pères sont d'abord des commentateurs de la Bible, et donc la morale est abordée dans les commentaires de la Bible, toujours, et dans le cadre de la prédication, puisque ce sont des pasteurs de leur communauté, la plupart du temps. D'ailleurs, les pères de l'Église étaient des abbés, des évêques, des enseignants, et de très grands savants. C'est-à-dire que les pères de l'Église faisaient autant de la botanique que la lecture en hébreu, hein, que de la biologie, on dirait aujourd'hui, que de la prédication. Le savoir à l'époque des pères était organisé de manière tout à fait unifiée. Aujourd'hui, il est totalement fragmenté, ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Alors, portant ça, et c'est très important aussi de se dire qu'il y a des thèmes spécifiques. Ces thèmes spécifiques sont liés essentiellement à un climat d'Église persécutée. Le thème des persécutions chez les pères de l'Église est un thème très important. Donc, les pères réagissent à la persécution des chrétiens par les empereurs, etc. Donc, on a des textes anonymes d'ailleurs, et qui est obsédé par cette question de l'identité du chrétien dans le monde. Voilà. Donc, il y a cette question-là de la persécution, sous ses différents aspects. Il y a aussi des questions, il y a beaucoup de questions de morale conjugale chez les pères, beaucoup. C'est un thème très courant, surtout celui de la virginité, parce que il faut bien se dire que les pères étaient souvent des moines et des évêques. Et donc, ils écrivaient pour leur communauté. C'est-à-dire, ils écrivaient pour des communautés de moines ou de personnes consacrées. Et donc, ils ont beaucoup écrit en direction des personnes consacrées. Il y a aussi beaucoup de prêts sur le baptême, par exemple, si je donne l'exemple du baptême, parce que pour être baptisé et pour vivre en baptisé, il faut avoir un certain comportement moral. En gros, mourir au péché, renaître à la vie nouvelle, etc. Donc, on a aussi, à travers la pastorale des sacrements des pères de l'Église, une pastorale morale. Donc, une théologie fondée sur l'Écriture, une théologie prêchée, et une théologie qui n'aborde la morale que dans l'ensemble d'un champ théologique unifié. Bon, ça, c'est le... Et je dis ça parce que l'obsession, si on peut dire, des pères de l'Église, la sainte obsession des pères de l'Église, c'est la vie future, c'est la vie en Dieu. Donc, la vie morale, c'est le chemin qui mène à la vie en Dieu. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne fait de la morale, on ne vit la morale, on ne pratique notre morale que parce qu'elle nous permet d'atteindre la béatitude en Dieu. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui me permet d'introduire maintenant, de faire la passerelle, si tu veux, avec saint Thomas, saint Thomas d'Aquin, parce que, et puis je terminerai là, mais c'est une terminaison un peu d'abord essentielle et substantielle. Je viens de décrire la théologie des pères comme une théologie une, commentatrice de l'Écriture, essentiellement, prêchée et tendue vers le royaume. Bon. Ce n'est plus la même chose au Moyen-Âge, plus du tout, ou plus complètement. Si je donne... Alors, je parle de saint Thomas d'Aquin parce que saint Thomas d'Aquin est considéré comme le théologien de l'Église catholique, hein, celui qu'on appelle le docteur commun. Et donc, on ne peut pas faire de théologie morale sans faire référence à saint Thomas, c'est d'Aquin. Apparemment, la porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, ne connaît pas saint Thomas, d'Aquin, puisqu'elle a confondu hier sur un grand média, paraît-il, je ne sais pas si c'est un fake, mais je ne crois pas, elle a dit qu'elle ne croyait que ce qu'elle voyait comme saint Thomas d'Aquin. Elle a confondu l'apôtre et saint Thomas d'Aquin, donc elle devrait suivre les cours du CIF, ça lui permettrait d'apprendre qui est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est le grand docteur de l'Église catholique, Augustin, Thomas, c'est les deux piliers. Mais ils sont très différents. Ils sont très différents. D'abord parce que la méthode est différente. Au XIIIe siècle, se fonde une nouvelle discipline qui impacte la théologie morale. Cette discipline s'appelle la scolastique. Alors, ce n'est pas seulement saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin a hérité, enfin, ça se situe dans le travail d'Abélard. Hein, mais saint Thomas d'Aquin, c'est le grand organisateur et utilisateur de la théologie scolastique, de la méthode scolastique, scola, l'école. Alors, on fait un petit, c'est de la scolastique moderne, finalement. Hein. La scolastique. La méthode scolastique, c'est ce que tous les théologiens faisaient au XIIIe siècle, aussi quand ils faisaient de la morale. Alors, je m'explique parce que c'est tout à fait différent des pères de l'Église. Quand on fait de la théologie scolastique, on travaille avec une méthode, la méthode scolastique, qui répond à deux critères. Deux. Le premier, on construit un petit dossier qu'on appelle un dossier contradictoire pour traiter une question de théologie morale. Par exemple, est-il naturel de je sais pas quoi, de se marier? Est-il contre-naturel de faire autre chose? Est-il favorable au bien commun de respecter le confinement, dans quelles conditions peut-on contrevenir au confinement? Bon. Pour organiser cette question de théologie morale, on fait un dossier. Le théologien scolastique, il fait un petit dossier contradictoire. C'est l'ancêtre de nos dissertations quand on passait le bac, hein, ou en fac, n'est-ce pas? La dissertation, on disait on fait une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est l'ancêtre. Si tu prends la somme de théologie, l'ouvrage qui était un ouvrage de catéchèse à l'origine de saint Thomas d'Aquin, la somme de théologie, tout est organisé, toutes les questions sont organisées en dossiers contradictoires. Alors, on pourrait dire thèse, antithèse, synthèse. Saint Thomas dit pas ça comme ça, mais il y a d'abord, il pose une question, il y a un respondeo, comme on dit, je réponds. Puis après, il donne ses conclusions et il tranche. Puis il organise ça en plusieurs points. N'est-ce pas? Chaque question fait l'objet de réponses précises en premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Ça veut dire que Thomas introduit en théologie la raison et une raison organisée. C'est-à-dire que faire de la théologie morale à l'époque de saint Thomas d'Aquin, donc c'est raisonner en dossier contradictoire, c'est introduire la rationalité. Doit-on obéir au confinement? À quelles conditions contrevenir au confinement? Bon, tout ça fait l'objet d'un dossier rationnel avec des arguments qu'on présente, qu'on discute, hein, et qui aboutissent à une conclusion. Alors, c'est très différent. Hein. On ne prêche plus la morale. On l'enracine plus d'abord dans l'écriture qu'on va lire pour la faire avancer, comme disait Grégoire le Grand. On réfléchit avec une méthode abstraite. La méthode du dossier, c'est quand même une méthode qui fait appel à une abstraction rationnelle organisée, on peut dire. Hein? Ça, c'est très important. La méthode scolastique, ça change complètement la manière de faire de la théologie et de la théologie morale en particulier. Ensuite, dans ce dossier, le dossier contradictoire de la scolastique, que fait saint Thomas? Saint Thomas discute, c'est le deuxième pilier de la morale, de la scolastique médiévale, c'est ce qu'il appelle les autorités. En latin, auctoritates, c'est ce qui a donné auteur en français. Auctoritates, les autorités. Les autorités chez saint Thomas, alors on peut se rassurer quand même, il y a la Bible, bon, c'est bon signe quand même que la Bible reste une autorité, et puis les pères de l'Église, bien sûr. Autrement dit, saint Thomas met en place une théologie rationnelle, d'abord rationnelle, et à partir de cette méthode rationnelle du dossier contradictoire, il il utilise deux autorités majeures, la Bible et les autorités. Et alors, très important, parmi les autorités, à égale autorité, on pourrait dire, se trouvent les pères de l'Église et celui qu'il appelait le philosophe. Alors, le philosophe à cette époque-ci, à cette époque-là, c'était évidemment Aristote, hein, puisque les textes d'Aristote venaient d'être redécouverts. Autrement dit, philosophie et théologie de saint Thomas sont marquées par la référence comme autorité à égale, alors ça a posé, ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, à égale considération près, la Bible, les Pères et Aristote. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'est-ce pas, mais Aristote, c'est quand même pas un père de l'Église. Bon. Mais Aristote venait d'être découvert, c'est un philosophe païen. Mais l'influence, mais considérable que Aristote a pu exercer, évidemment chez saint Thomas, hein, où Aristote devient aussi important que l'autorité biblique ou que l'autorité patristique. C'est très important, ça. C'est très important parce que ça veut dire que comme théologien moraliste, aujourd'hui, on peut se référer, si on fait du saint Thomas aujourd'hui, si on veut être héritier de saint Thomas aujourd'hui, très vaste débat, eh bien il faut se référer à la Bible, au Père, à Aristote, toujours aujourd'hui, et puis on pourrait chercher aujourd'hui quelles sont les autorités avec lesquelles on pourrait faire de la théologie morale. Qui aurait aujourd'hui le titre, je ne sais pas s'il y en aurait, hein, de nouvel Aristote, qui servirait d'autorité à la théologie, et la théologie morale en particulier. Alors, on voit bien, enfin moi je vois bien, j'espère que vous voyez aussi, que quand on fait de la théologie morale à l'époque de saint Thomas, ça n'a plus rien à voir avec l'époque patristique. On n'a pas d'abord le souci de prêcher à des gens concrets, c'est quand même très différent ça. On a davantage le souci d'organiser rationnellement sa théologie, et la théologie morale devient une théologie savante, une théologie même d'universitaire. D'accord? Donc c'est plus une théologie qu'on prêche à partir d'une Bible qu'on commente, c'est une théologie de gens savants et qui enseignent à l'université, voyez la Sorbonne, avant la loi de séparation, enfin avant ce qu'elle est devenue maintenant, hein. Mais c'est une théologie universitaire, une théologie savante, une théologie rationnelle, hein. Ça change complètement la manière de faire de la théologie. Saint Thomas d'Aquin est présenté de manière très habituelle, et on a raison de le faire, hein, comme la synthèse parfaitement équilibrée entre la foi et la raison. Ça, c'est alors ce que je dis là, c'est un lieu commun, mais il y a quand même beaucoup de lieux communs qui sont vrais. C'est comme ça. Ça a été très 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 critiqué quand même, mais on considère j'ai pas fait de statistiques, mais beaucoup, beaucoup de théologiens considèrent que saint Thomas d'Aquin représente la synthèse la plus équilibrée possible entre la foi et la raison. On a l'habitude aussi de comparer saint Thomas d'Aquin à une cathédrale théologique, en particulier la Somme de théologie. Alors, la Somme de théologie, si vous avez jamais ouvert la Somme de théologie, il faut faire cet exercice-là. Faut pas être confiné trop longtemps, parce que je suis pas sûr que la Somme de théologie vous sorte de l'ennui. Mais pour un théologien qui se met à se passionner de saint Thomas d'Aquin, il y en a beaucoup, hein, la Somme de théologie, c'est un univers fantastique, mais c'est un univers complexe. La Somme de théologie, il y en a d'autres, il y a la Somme contre les gentils, etc. Il y a aussi des prédications de saint Thomas. Au moment du Concile de Trente, au XVIe siècle, était posée sur l'autel la Bible est la somme de théologie. Hein. Ceci pour dire l'importance de la somme de théologie. Hein. Mis au même niveau que la Bible, c'est quand même quelque chose. C'est dingue. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même regarder un peu la somme de théologie, parce que, alors, si on ouvre cette somme de théologie, il faut faire l'exercice. En général, ça fait un peu peur, parce que la somme de théologie, c'est énorme, et c'est un langage tout à fait inhabituel quand on n'en connaît pas les clés, et c'est l'ouvrage de référence de l'Église catholique. Alors, il y a un côté suranné, c'est le XIIIe siècle, la somme ne répond pas à tout, etc. Mais c'est quand même une référence majeure dans l'Église, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime le style de saint Thomas ou pas, c'est comme ça. Mmh. C'est un monument. Alors, on la compare souvent à une cathédrale, parce qu'elle elle a une architecture intérieure aussi fine qu'une cathédrale entre la foi et la raison. Et si on retire un pilier, pensez à malheureusement Notre-Dame de Paris, si on retire quelque chose, si on retire la flèche, presque tout s'écroule. Hein. On ne peut pas penser la métaphore de la cathédrale, comparer la somme de théologie à une cathédrale, ça veut dire qu'on ne, tous les éléments sont connectés, on ne peut pas en séparer un sans se priver de comprendre l'autre. Tout se tient, tout est organisé. C'est une architecture intérieure très puissante, très fine, très élaborée. Alors, je dirais la même chose de saint Thomas que ce que j'ai dit sur les pères, et même de ce que j'ai dit sur l'écriture, comme quoi j'ai une certaine constance. Il n'y a pas une morale de saint Thomas d'Aquin. Surtout dans un ouvrage qui est conçu comme une cathédrale, hein, où tout répond, tout a un sens. Il n'y a pas une morale de saint Thomas d'Aquin. En revanche, on trouve dans la somme de théologie une partie morale. On peut identifier dans la somme de théologie une partie morale, même plusieurs sous-parties dans la partie morale. Alors, vous pouvez faire ce test-là dès qu'on pourra récupérer la librairie, la bibliothèque du CIF. On peut se plonger dans... Mais je ne suis même pas sûr. Je crois qu'ils devaient acheter la somme de théologie au CIF. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais j'ai expliqué que c'est complètement impossible de faire de la théologie sans se référer à saint Thomas et sans avoir la somme de théologie qui était la catéchèse au XIIIe siècle. Hein. On ne peut pas... Alors, d'accord, on est au XXIe, mais c'est quand même un monument qu'on ne peut pas ignorer. Alors, si on ouvre la somme, c'est facile de repérer dans le plan général, c'est facile de repérer les parties morales. Hein. La somme, elle est organisée, pour n'importe qui veut la parcourir, hein, elle est organisée en trois parties. Alors, c'est quand même assez simple de s'y retrouver. Là, il y a la première, la deuxième et la troisième. Et il faut savoir hein, que la somme est un ouvrage inachevé. Puisque saint Thomas est mort avant de pouvoir l'achever. Alors, par exemple, dans la somme de théologie, il n'y a pas de traité de l'Église. Parce que la somme de théologie, beaucoup de choses, il aurait pu mieux faire s'il y avait eu plus de temps. Bon, mais c'est un ouvrage inachevé. En revanche, la morale, la partie morale, qui est plutôt au centre d'ailleurs, si on veut vraiment en trouver une, c'est plutôt au centre, est complète. Et il y a chez saint Thomas une morale, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, mais c'est moderne, hein, une morale générale qui pose les fondements de la morale, et puis des morales spéciales. Donc il y a une morale familiale, il y a une morale économique, hein, où il parle du bien commun, il y a une morale sociale, il y a une morale... voilà, il y a tout ça. Bon. Donc, il y a une partie morale ou il y a des parties morales dans la somme de théologie. Si on veut absolument les trouver, on les trouve dans la. Alors, il y a trois parties qui s'appellent la prima, la segunda, la tertia pars, et il y a dans ces parties des sous-parties qui sont très simples à comprendre. Il y a la première partie de la première partie, la seconde partie de la première partie, etc. Et c'est là où on trouve au cœur de la somme la morale. Mais si vous avez le temps, ou même la possibilité, vous pouvez faire cet exercice. Vous allez sur Google, tout simplement, vous tapez « somme de théologie ». Moi, je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant de le faire. Et vous tapez « plan de la somme de théologie ». Et alors, vous allez voir le plan et vous pouvez identifier, tiens, c'est un petit exercice pratique à faire pour la prochaine fois. Vous tapez « plan de la somme de théologie » et vous allez regarder quel est ce plan. Et vous allez voir, faites-le, où se trouve la partie morale de la somme de théologie, ou les parties, pourquoi, et essayez de vous poser les questions, pourquoi ça se trouve là, et pourquoi ça se trouve là dans le plan d'ensemble, c'est-à-dire, je pourrais poser cette question, c'est presque un travail pratique, un TP annexe au cours, allez trouver le plan de la somme de théologie. Dans ce plan, regardez où se trouve la morale et posez-vous la question, pourquoi elle est là et quelle est la logique de l'ensemble du plan. Et après, moi, ce que je vous proposerai de faire dans le cours suivant, c'est d'entrer un peu plus dans les contenus de la théologie morale de saint Thomas. Mais avant d'entrer dans les contenus, regardez comment c'est structuré, parce que ça vous donne déjà les grandes clés. Et donc, faites l'exercice. Quand je suis en présentiel, dans certains cours, je distribue en photocopie le plan de la somme et puis je le commente. Et c'est très intéressant parce que, vous savez, d'éminents théologiens, avant moi, l'ont fait, on le fait toujours, ça a donné lieu à de multiples cours et controverses et le plan de la somme de théologie. Pour nous qui sommes moralistes, essayez de faire cet exercice, il est super intéressant. Vous regardez « plan de la somme de théologie », ils vont vous en sortir, enfin, ils vont vous sortir le même plan, mais ils vont le commenter à chaque fois, les théologiens, d'accord ? Ce qui va être intéressant pour vous, c'est de regarder dans ces trois parties, hein, où est la morale, et posez-vous la question, pourquoi saint Thomas l'a mise là ? Vous verrez, je donne des éléments de réponse apéritifs, hein. Elle n'est pas au début, elle n'est pas à la fin. Regardez bien où elle se trouve et essayez de vous poser la question comme ça, de réfléchir à haute voix, pourquoi elle est là ? Quel est le sens pour saint Thomas d'Aquin d'avoir placé la vie morale à cet endroit-là ? Puis moi, je vous dirai après mes réponses, comment je comprends ça,